au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Isabelle Schmitz.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Canal Academy. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Gilles Van Grasdorff, journaliste, grand spécialiste du Tibet. Merci de nous faire l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez publié une nouvelle histoire du Tibet aux éditions Perrin en 2006, ainsi qu'une biographie du Dalai Lama chez Plon en 2003. Malgré le fait qu'on parle beaucoup du Tibet ces derniers temps, ce n'est pas principalement du Tibet que nous allons parler aujourd'hui, puisque vous êtes là en fait pour commémorer avec nous un anniversaire, celui de la Société des Missions étrangères de Paris. Il y a en effet 350 ans, en 1658, le pape Alexandre VII nommait deux missionnaires français vicaires apostoliques du Tonkin et de la Conchinchine, François Palu et Pierre Lambert de la Motte. Ceux-ci reprenaient le flambeau des missionnaires nestoriens, dominicains, franciscains et jésuites, dont l'un des plus illustres, saint François Xavier, qui est passé à la postérité comme l'apôtre des Indes. Née en 1658, la Société des Missions étrangères de Paris allait envoyer au cours de ces 3 siècles et demi plus de 4500 prêtres en Asie. Et le bilan chiffré aujourd'hui, à ce jour, je ne connais pas précisément, mais vous donnez quelques chiffres sur le début du XXe siècle. Vous disiez que les missions étrangères comptaient 28 missions de par le monde, 1 300 000 chrétiens, 31 évêques, 1 millier de missionnaires, 500 prêtres indigènes ou autochtones.
C'est un beau chiffre.
C'est un beau chiffre. D'ailleurs, le titre de votre livre, du livre que vous publiez aux éditions Perrin, est « La belle histoire des missions étrangères », qui englobe absolument toute cette histoire, en tout cas tout ce qu'on peut en dire du point de vue de l'historien et de la personne qui a travaillé les archives. Vous allez nous en parler.
C'est une histoire humaine, hein, avant tout, en plus de l'histoire spirituelle. Il ne faut pas oublier qu'Alexandre VII, lorsqu'il reçoit les prêtres français, le monde était divisé pratiquement en deux, avec d'un côté les puissances ibériques, l'Espagne vers le continent américain, et puis côté Asie, avec des missions notamment à Goa, il y avait donc les Portugais. Mais ces gens-là devenaient trop influents et Alexandre VII avait décidé de casser leur puissance, d'autant plus qu'ils intervenaient dans la nomination des évêques. Et le Portugal, lui, était au XVIIe siècle sur le déclin. Donc à cette époque-là, en 1658, la France n'a pas de puissance navale forte, pas encore, et les premiers prêtres nommés vont recevoir comme mission de non pas d'évangéliser, bien sûr c'était le but, c'était un des buts, mais le but de la mission demandée, essentielle, demandée par Alexandre VII, était de former un clergé indigène. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un précurseur, un avignonnais jésuite, Alexandre de Rhodes, dont on parle jamais assez dans cette histoire des missions, et qui était venu dès 1651 à Rome demander au pape Innocent XI la nomination d'évêque pour soutenir les chrétientés de Cochinchine et du Tonkin, c'est-à-dire le royaume d'Annam, c'est-à-dire aujourd'hui le Vietnam. Alexandre de Rhodes ayant eu un accord de principe au départ, va se diriger vers Paris. Et c'est vers Paris, vers la compagnie du Saint-Sacrement, vers les bons amis, c'est-à-dire les sociétés secrètes qui pullulent à cette époque dans la France de Bossuet et de Louis XIV. Eh bien, Alexandre de Rhodes pense qu'il va trouver là les gens qui vont l'aider. Effectivement, il rencontre donc au cours de deux conférences à Paris, il rencontre Pierre Lambert de la Motte, François Palu et plus tard Ignace de Cotolendi qui va rejoindre le groupe un petit peu plus tard, qui sera le troisième évêque. Un autre évêque va être nommé par Alexandre VII à la demande. Il était initialement prévu pour l'Asie, mais il va être amené à se diriger vers un autre continent, vers le Québec, vers le Canada, vers la Nouvelle-France de l'époque. Hein, donc il s'agit de François de Laval, il ne faut pas l'oublier, parce que les missions étrangères, c'était aussi au départ le Canada. François de Laval va débarquer au Canada en 1660 et en 1674 va naître l'évêché, le premier évêché de Québec, et il va devenir le premier évêque de Québec. Donc pendant ce temps, Pierre Lambert de Lamothe, François Palus, décide de partir. Il n'y a pas de bateau, donc
oui,
pas
de. Ils se mettent en route pour un très long voyage. C'est vrai que
ils se mettent en route et quittent Paris dans le plus grand secret. Lambert d'abord, François Palus plus tard, en dernier. Ils sont quatre au départ, donc ils vont partir vers Alexandrette, s'habiller à la turque, intégrer des caravanes. C'est la route de la soie. Et on va traverser avec eux la Mésopotamie, la Perse. À Bagdad, ils vont être reçus par un vice-consul, un consul de France représentant la France. Donc il s'agit d'un homme qui va devenir un des futurs évêques, mais un individu très, très important dans le coin parce qu'il gère le passage de tous les voyageurs, beaucoup de missionnaires, vers l'Asie, qui passent donc par Babylone.
Alors, je vous coupe un moment. On évoque là la jeunesse des missions étrangères. Vous nous avez parlé d'Alexandre de Rhodes. Il y a des missionnaires, je crois, qui sont beaucoup plus anciens. Est-ce que vous pourriez juste nous rappeler à peu près de quand a commencé l'évangélisation de l'Asie ? Vous rappelez au début de votre livre que la mission est un des principes fondateurs de l'Église ?
Oui, bien sûr. Ben, les premiers missionnaires, ce sont les apôtres.
Ce sont les apôtres.
Hein, donc, cela va de soi.
Et alors, les apôtres de l'Asie, les premiers qu'on connaît ?
Bien sûr, il y a François-Xavier, mais... Dans l'influence même de l'Asie même, il faut savoir qu'au niveau des missions étrangères, c'est surtout Alexandre de Rhodes. Il y a des précurseurs, hein, il y a des gens qui étaient comme nobili, plus portés vers les rencontres avec les brahmanes, avec des gens qui avaient une certaine souplesse dans ces premiers contacts, parce qu'il ne faut pas oublier que ces gens partaient sans savoir ce qu'ils allaient rencontrer. Il fallait avoir des tripes.
Oui. Hein, c'est une des choses très frappantes dans votre livre, c'est que vous racontez les multiples péripéties qui leur arrivent, et puis très souvent la mort.
Porter l'évangile, et en sachant que ce soit Palus, que ce soit Lambert, que ce soit avant de Rhodes ou d'autres, ils pensaient quand même faire un voyage sans retour. Hein, donc ça, c'est très, très important. Et puis, l'objectif, au départ aussi, c'était... la Chine, chemin faisant. D'ailleurs, le premier groupe, qui est composé de quatre missionnaires, hein, enfin trois missionnaires et un laïc qui les accompagne, qui leur sert de valet, ce premier groupe va traverser donc, bien sûr, la Perse, la Mésopotamie, va arriver aux Indes, traverser le détroit d'Ormuz avec des barques mortes, M-A-U-R-E-S. Aux Indes, ils vont... avoir le choix, à un moment donné, d'aller vers l'Himalaya, remonter donc vers le nord de l'Inde, alors qu'on est il débarque du côté des côtes de Coromandel, vers le sud, donc près de pas trop loin du Bengale. Et l'idée est de traverser l'Himalaya pour essayer d'aller rejoindre Pékin, objectif initial des missions. Il rencontre là des jésuites qui, s'en revenant de Chine, disent « attention, le chemin est difficile ». Et là, décision est prise que du fait que des messagers leur disent, que ce qu'on appelle des courriers, leur disent que du côté du Siam, c'est-à-dire la Thaïlande d'aujourd'hui, il y a un roi qui s'appelle Pranarai, qui est très ouvert à la religion, qui a déjà reçu des Hollandais, qui commercent avec la Hollande, qui commercent avec les Portugais. Donc il y a des chrétiens, il y a des protestants. Donc ce roi est, dit-on, très accueillant. Effectivement, par une longue péripétie, ils vont embarquer sur ce qu'on appelle des barques, qui sont des petits sampans, et remonter les rivières de la Menom, donc vers la capitale de l'époque du Siam, la capitale s'appelle Ayutthaya. On n'est pas encore à Bangkok. Et c'est dans cette petite ville, il y a un palais, à l'extérieur de l'Ayutthaya, dans un petit quartier qui s'appelle Louvo. Et ce palais de Louvo, là, il y a ce roi qui donne l'autorisation d'installer cette mission. Pierre Lambert de Lamothe, et ses compagnons, notamment Jacques de Bourges, qui est le narrateur de ce premier voyage, parce qu'il y avait toujours un narrateur, eh bien, s'installe à Ayutthaya, ouvre une mission, hein, avec une chapelle, avec un presbytère, avec un petit cimetière, et ils attendent les autres. Le deuxième groupe est parti pendant ce temps-là. Nous sommes en 1662, ils ont mis plus de 2 ans à faire le voyage, à pied, en barque, en bateau.
Certains sont morts. Non,
pas les premiers. Les premiers sont sains et saufs. Les 4 premiers arrivent sains et saufs. C'est d'ailleurs très étonnant, hein, de les voir se soigner avec. Ils découvrent d'ailleurs des plantes. Ils découvrent les mangues. Ils découvrent des fruits exotiques. Ces fruits qu'on va retrouver plus tard dans nos jardins, sur nos marchés. Il ne faut jamais oublier ça.
C'est vous ça insistez aussi c'est ça, sur le fait que ce sont des naturalistes et qui ont permis
un
avancement de la science. Assez conséquent.
Oui, par rapport au début, quand vous achetez des radis sur le marché, eh bien, ces radis roses, ce sont les missionnaires des missions étrangères qui ont ramené ces radis du Sichuan. Bon, ça, mais ça, on pourrait raconter toutes les histoires des fruits et légumes et des fleurs.
Oui. C'est vrai que vous citez un missionnaire, je crois, qui a déposé au Muséum d'Histoire Naturelle
30 000 plantes et espèces diverses.
Mais
plus tard, déjà, en 1800, dans les années 1850. Et donc, le deuxième groupe, pendant ce temps-là, nous sommes toujours en 1662, est parti. Ignace Cotolendi, qui a été nommé évêque de Métropolis, devient vicaire apostolique de Nankin et se met aussi en route. Manque de chance, malade, souffrant de dysenterie et de forte fièvre. Il va décéder sur les côtes de Coromandel aux Indes. Et il est donc le premier évêque des missions étrangères à décéder sur le terrain en Asie. Pendant ce temps-là, donc, il y a un troisième groupe qui s'en va, qui s'est mis en route, toujours en 1662. Là, il y a l'autre fondateur des missions, François Palu, qui entraîne derrière lui la dizaine de missionnaires qui sont restés rue du Bac. Au total, ils étaient 17. Hein. Et à l'arrivée, pratiquement 4 ans après, il n'en restera plus que 9. Donc, un certain nombre sont morts en route.
Ces missionnaires étaient des séminaristes ou des prêtres diocésains à la base.
Prêtres séculiers.
Prêtres séculiers qui ont tous ressenti un appel à être missionnaires et se sont donc
constitués. Ils étaient tous des fanats des récits d'Alexandre de Rhodes. Hein. Ça, et puis l'appel du lointain. Cet appel qui va faire que les missions sont créées. Pendant ce temps-là, à Paris, il y a rue du Bac, il se passe une sacrée aventure. C'est qu'ils ont délégué des prêtres pour devenir des directeurs des missions étrangères. Et rue du Bac, il y avait un certain Jean Duval, évêque de Babylone, qui avait des ennuis de financiers et qui avait 2-3 bâtiments à l'équivalent du 128 rue du Bac. Et comme il avait fait mauvaise fortune, eh bien, la Compagnie du Saint-Sacrement et les missions étrangères proposent de racheter ces locaux. Et c'est chose faite en 1963. Louis XIV signe les lettres patentes, le cardinal Chigui à Rome également, l'abbé de Verneuil, abbé de Saint-Germain également. Et donc, voilà les missions créées, fondées, avec en Asie un point de chute, c'est le Siam Ayutthaya, première mission des missions étrangères, premier point d'ancrage des missions étrangères sur l'Asie, et le deuxième point d'ancrage à Paris, rue du Bac, le séminaire qui va former les futurs missionnaires. Pour passer le siècle, il y aura très peu de missionnaires à partir de 69 sur le début. Après, on rentre dans une grande crise avec au début du XVIIIe siècle, et puis surtout la Révolution française. Mais c'est déjà une autre période. Mmh. Mais il n'y a que 69 missionnaires qui partent dans cette première période.
Vous citez une lettre très belle de François Palu après la mort d'un de ses frères, un de ses compagnons, pendant le voyage, et où il dit « Voilà le pont commencé. Trop heureux si nos carcasses et nos os, aussi bien que ceux de nos chers confrères, pouvaient servir de pilotis pour l'affermir et faire un chemin plein et ouvert à de braves missionnaires et moissonneurs pour faire venir une ample récolte en ces champs si fertiles. » C'est très beau.
C'est vrai, oui, mais c'est très vrai.
Ça reflète aussi les difficultés immenses qu'ils ont à affronter Et vous décrivez très bien au XVIIe, XVIIIe, les persécutions, les réticences des différents souverains. Et paradoxalement, quand on en arrive à l'âge d'or du XIXe, le martyr ne s'arrête pas. C'est vrai que...
Non, mais vous savez, certains quand vous avez cette période après la Révolution où il y a une relance, il y a toujours en France, et ça mérite d'être dit, il y a toujours cette volonté d'un regard posé sur l'Asie, toujours un œil posé sur l'Asie. Louis XIV va recevoir donc une délégation siamoise à Versailles. C'est rocambolesque.
Dans la Galerie des Glaces.
Cette délégation siamoise qui refuse de faire des repas auxquels assistent la noblesse et les dames de la cour qui sont autorisées à venir les voir dîner et hôtel de Tarane. Vous savez, la France découvre l'Asie. La France découvre l'Extrême-Orient par ses personnages. Et il y avait... une vingtaine de carrosses qui accompagnaient ces Siamois, cette délégation siamoise, dans les rues de Paris, avec les badauds qui s'arrêtaient et qui venaient, qui regardaient ces gens venus d'ailleurs. Et je crois que cette idée de regard d'Asie va être de plus en plus forte vers le 18e siècle, 19e siècle, au moment où le Muséum d'histoire naturelle, la Société de géographie va financer les missionnaires. Et là, on va avoir affaire à des botanistes, à des linguistes, à des cartographes, des ethnographes. Et il y a des histoires merveilleuses. Les missions étrangères au 19e siècle, ce n'est plus le Siam, la Cochinchine, le Tonkin, c'est-à-dire le Vietnam. C'est la Mandchourie, c'est la Chine, c'est donc Shanghai,
le Tibet. Aussi,
le Tibet, il y a le Laos, le Cambodge, la Corée, le Japon, bien évidemment. Et partout, ces missionnaires vont s'implanter avec... L'idée du martyr, parce que ça existe, les persécutions existent, sont là, hein, notamment au Japon et en Corée, mais il y a cette volonté de former des clergés. Le résultat est là. Vous savez, 350 ans après, on peut dire que la mission confiée par Alexandre de Rhodes aux missions étrangères, c'est-à-dire vous n'apportez pas la France ou l'Europe vers l'Asie, mais vous formez des gens à l'évangile et vous formez un clergé indigène, bien ces missions réussissent. Mmh. Et d'ailleurs, il était fortement question en 1980, après Vatican II, de s'interroger sur le devenir des missions étrangères en France et en Asie. Et la question était posée à Jean-Paul II. J'aurais d'ailleurs tellement aimé offrir ce livre à Jean-Paul II parce que quelqu'un qui me marquait beaucoup, eh bien Jean-Paul II avait dit il ne faut pas s'arrêter, il faut poser un autre regard sur l'idée, sur l'appel missionnaire. Mmh. Et ça, c'est très important parce que c'est vrai que les missions étrangères ont un autre rôle aujourd'hui.
Mmh. Et c'est peut-être aussi dans cette dynamique qu'il a tenu à canoniser certains martyrs. J'ai le souvenir des martyrs du Japon, notamment, qui ont été canonisés en 2000.
Il y a une chose que j'ai découvert, que j'ai raconté dans mon livre. En 1921, c'est le lendemain donc, de la Grande Guerre, le maréchal Foch, très peu finalement de personnes connaissent ce fait. Le maréchal Foch demande aux missions étrangères, notamment à Monseigneur de Guébriant, qui est le premier supérieur du XXe siècle, donc nommé aux missions étrangères, de s'occuper du site de Dormans, donc dans la Marne, donc là où il y a eu les grandes batailles de la guerre de 14-18. Et c'est un prêtre venant de Sichuan qui va passer le reste de sa vie, pratiquement. Il est mort dans le village de Dormans, il est enterré à Dormans. Et ce sont les missionnaires, les missions étrangères, qui vont s'occuper pendant une vingtaine d'années de la création, de la fondation de ce site à Dormans.
Oui, c'est une belle histoire.
Une belle histoire. Et puis, bon, il faut aller voir cette exposition rue du Bac.
Oui, c'est une exposition magnifique qui... peut-être est prolongée parce que
elle est prolongée jusqu'au 29 juin.
Ah, jusqu'au 29 juin, c'est ça.
Donc,
on aura peut-être la joie d'accueillir...
14h-18h, tous les jours, sauf le dimanche, je crois. Non, je ne sais même pas si le dimanche est ouvert.
Je crois que le dimanche est ouvert aussi.
Alors, tous les jours.
On aura peut-être la joie d'accueillir sur Canal Académie le père Gilles Rétinger qui a organisé cette exposition, qui montre dans toute sa diversité le fruit des missions et le fait qu'elle...
Il y a des documents fabuleux,
qu'elle vit encore aujourd'hui.
Hein, et puis il y a ce jardin qui va être ouvert, inauguré au mois de mai avec les plantes et les fleurs. C'est magnifique et il faut vraiment aller voir. C'est à voir. Passage obligatoire rue du Bac.
Très bien, un appel à nos auditeurs, 128 rue du Bac.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.
Jean-Luc Pinceau, le créateur de la troupe du Petit Miroir, spécialisée dans le théâtre des marionnettes chinoises, est lauréat depuis le 11 juin 2007 du prix de la Fondation franco-culturelle taïwanaise. Vous êtes amateur de théâtre, venez découvrir ce théâtre très populaire à l'origine de l'opéra chinois. Depuis le XVIe siècle, à Taïwan, les marionnettes honorent les divinités. Ce théâtre cultuel est aujourd'hui un élément fort de la culture taïwanaise. Alors installez-vous confortablement, venez écouter l'émission Point de mire et levons ensemble le rideau sur un genre théâtral qui invite au voyage. Retrouvez l'émission Point de mire, la culture taïwanaise dans le miroir des marionnettes.
On a parlé de l'histoire de ces missionnaires, mais je voudrais attirer l'attention de nos auditeurs sur leur, d'abord sur votre livre, qui est passionnant parce que tout ce qu'on peut en dire là est très réduit, mais qui évoque leur dimension pleinement humaine et entre autres le fait que ces garçons qui se préparaient éventuellement au martyr, etc., avaient une épaisseur humaine, de bons vivants et de comiques assez célèbres dans le quartier. Je crois qu'ils étaient surnommés les voyous de la rue du Bac.
Oui, tout à fait.
Est-ce que vous pourriez nous évoquer un peu quelques-unes de ces figures?
Il y en a tellement. Vous savez, je suis en train de préparer pour un autre éditeur Omnibus un récit de voyage, les voyages de ces missionnaires, parce qu'il y a des personnages. Je pense, en prenant comme ça en brut, je pense à Jocelyn Chicard qui part dans les années 1850 vers l'Asie, donc vers le Yunnan, et qui parlait du Yunnan comme de sa maîtresse, de sa femme, de son amour, de son grand amour. Et bien lui vivait avec une selle de cheval, il voulait vivre toujours à cheval, donc il avait sa selle de cheval dans son petit logis et il avait adressé une lettre quelque temps avant son départ à ses parents en disant qu'il réclamait des armes. Or, on ne sait pas trop s'il était à un moment donné brigand, voyou, etc. C'était un missionnaire, bien sûr, mais il était impressionnant à voir. Autre personnage, c'est Nicolas Crick qui part par les Indes, vers l'Assam, et va essayer de rejoindre l'Assam. L'idée étant, en partant donc du nord-est des Indes, de franchir la barrière himalayenne et de rejoindre donc Lhasa, là où Huk et Gabé, les prédécesseurs missionnaires lazaristes, étaient passés quelques années plus tôt. Échec, parce qu'il va être massacré par les tribus à bord, mais c'était un type de Lorraine et il se baladait toujours avec son chien. Et son chien s'appelait Lorrain. C'est pas dans mon livre là parce que j'extrapole, parce que j'ai découvert tellement d'aventures merveilleuses chez ces missionnaires. Ils méritent tous une biographie.
Oui, c'est ça. Ce sont des vies qu'on découvre déjà, beaucoup plus qu'une histoire.
Qu'ils ont tous, pour la plupart, connu le martyr, mais d'autres ont survécu quand même, hein, puisque l'Église s'est quand même implantée et les missions se sont implantées. Et c'est ce qui est phénoménal d'ailleurs. Et ils ont fait de Hong Kong et un autre comme ça qui s'appelle Louis Furet. Lui nous a fait visiter Hong Kong en 1853 et il a rencontré un jour lors d'une promenade de Hong Kong qui était en construction, hein, donc qui était passé sous la coupe des Britanniques. Eh bien, il rencontre des vieux pêcheurs et comme il était manceau, il avait avec lui dans son voyage des boîtes de sardines à l'huile et qu'il a ouvert donc devant ce pêcheur qui ne connaissait pas les sardines à l'huile, qui n'avait jamais vu des sardines dans une boîte et qui finalement a bien apprécié, paraît-il, avec un peu de riz, etc. Donc ce sont des histoires, ce sont des vies. Vous savez, il y avait le chant du départ qui était aussi de Gounod.
Hein, qui a été mis en musique par Gounod.
C'est magnifique. Donc il savait qu'il n'allait pas revenir pour la plupart et c'est vrai qu'il y avait les martyrs, mais il y avait quand même des gens qui leur disaient attention, Hein, on ne sait pas, vous n'êtes pas là pour être des martyrs, vous êtes là pour apporter un message, et qui est le message de l'Évangile.
Et alors, ce qui est mystérieux aussi, en évoquant les martyrs, c'est qu'il y a énormément de martyrs de ces pays-là. Ce n'est pas seulement les missionnaires qui sont persécutés. Je sais qu'une des accusations des Chinois, vous la citez, est d'être les chrétiens du riz, parce que, soi-disant, les gens se convertissent par intérêt matériel. Et c'est vrai que cette accusation ne résiste pas tellement à l'examen des faits quand on voit le nombre de milliers ou dizaines de milliers de chrétiens de là-bas.
Non, et puis bon, c'est vrai aussi que ça, donc à partir de l'époque de la grande période des martyrs, c'est aussi les années 1820, 30, 50, et puis on remonte comme ça. Et puis je pense que là où le travail a été assez difficile, ça a été d'évoquer le XXe siècle, parce que le XXe siècle des missionnaires, eh bien, c'est aujourd'hui. Et les documents qui existaient, il fallait les chercher. J'avais peu de temps. J'ai réussi à faire ce livre en 10 mois, hein, en travaillant jour et nuit, et pratiquement 14-15 heures par jour. Et c'est vrai que je dois remercier les missions étrangères de m'avoir ouvert les portes, largement ouvert les portes, sans me demander ce que j'allais faire, ni me contraindre à quoi que ce soit. Et donc j'ai pu aborder le XXe siècle. Et là, je découvre des choses. Les révoltes des boxeurs, les missions étrangères sont concernées, il y a la guerre de 14-18, il y a l'arrivée du communisme et des mondes communistes, donc de l'Asie, hein, je pense à la Chine, Vietnam, et il y a en Corée notamment des missionnaires qui vont mourir dans les camps. Il y aura un seul survivant dont j'ai pu recueillir le témoignage. Et ça, c'est bien sûr posthume, puisque ce monsieur est décédé, bien sûr. Mais donc, il y a des moments très forts dans ce livre au niveau du XXe siècle. Et ça, c'est à retenir, quoi. Et c'est un beau cadeau, vous savez. Je crois qu'il ne faut pas avoir honte aujourd'hui. On parle toujours de la colonisation. Je crois que la colonisation a fait des bonnes choses aussi.
Vous évoquez, à propos de la révolte des boxeurs et du communisme, le fait qu'on reproche aux missionnaires et aux chrétiens d'être les valets de l'impérialisme. Alors ça, c'est le discours communiste. Et puis, lors de la révolte des boxeurs, les valets, les espions des Européens, etc. Il est vrai que ce que vous racontez, et tous les martyrs de ces gens qui meurent pour leur foi, montre que, en fait, l'esprit missionnaire va quand même beaucoup plus loin, et que, certes, les intérêts temporels peuvent être conjoints. C'est sûr que les missions ont sûrement été développées aussi grâce à certains traités de paix et amitié entre États.
Bien sûr, il y a le côté politique, hein, de la chose, mais il ne faut pas le rejeter. Il y a eu des erreurs de commises, bien sûr. Il y a des missionnaires qui n'ont pas tous été des gens très corrects, hein, mais quand même, il y a dans une majorité de ces gens, des gens qui avaient une volonté aussi d'aider, de soigner, des hospices. Ils ont monté des léproseries, il y avait tout un travail. Les missions étrangères, c'est aussi le témoignage de l'existence d'une multitude de langues qui ont toutes disparu. Eh bien, tous ces documents sont rue du Bac, au 128 rue du Bac, sous forme de dictionnaire, sous forme de documents, sous forme de lettres. Il y a des traces de ces langues qui ont disparu.
Alors, un point aussi très, très intéressant que vous développez au cours de l'histoire que vous racontez, c'est les relations entre l'État français et ses missionnaires, puisque ces missionnaires des missions étrangères sont en majorité français, si pas tous. Et l'État, que ce soit le roi, le gouvernement, les ministres, les appuie ou au contraire les freine. Vous évoquez Napoléon notamment, qui a une position tout à fait opportuniste et qui va un peu les lâcher en rase campagne. La Révolution française, qui les pourchasse et qui les persécute.
Oui, il y a
la loi de séparation de l'Église et de l'État. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu?
Il y a pendant la Révolution, la rue du Bac est réquisitionnée. Donc il y avait là une gendarmerie, il y avait la troupe. Les missionnaires ont dû fuir. Donc il existait entre eux un code. Lorsqu'ils s'écrivaient, il existait un code, une écriture pour reconnaître, pour parler tel nom au pape, tel nom sur telle mission, tel surnom pour se nommer un tel et un tel. Il y avait un personnage très étonnant qui était Thomas Billière. Alors lui, il est parti vers Amiens parce qu'ils étaient donc tous en exil. Hein. Alors certains à Rome, d'autres à Londres et d'autres qui étaient restés en France et notamment à Amiens. Et Thomas Billière était revenu à un moment donné à Paris. Il était entré dans un couvent et il s'était déguisé en femme. Et il allait tous les jours rue du Bac. Il se faisait appeler Citoyenne Lucie. Et Citoyenne Lucie, un jour, rencontre un marchand, un certain monsieur Salmon. Et il se fait connaître et il s'arrange pour racheter les bâtiments, les missions. Et c'est vrai que...
qui avait été confisqué.
Qui avait été confisqué. Et donc, ce rachat a sauvé les bâtiments, parce qu'à un moment donné, la question a été posée quand même, doit-on migrer, partir, aller vers la Suisse, vers Rome, vers ailleurs. Grâce à Billière, après moult péripéties, hein, donc grâce à Billière et à Citoyenne Lucie, eh bien, les missions étrangères rue du Bac ont été sauvées. Et puis, il y a aussi cette... au Vietnam, à l'époque de l'empereur Gyalong, donc c'est la première fois qu'on entend la notion de... C'est le royaume annamite qui est réuni sous une seule étoile, une seule bannière. Donc, sur l'époque de cet empereur qui s'appelait donc Gyalong, au XVIIIe siècle. Et Thomas Pignot de Béhaine, donc un missionnaire des missions étrangères, était aussi en même temps conseiller politique, conseiller militaire. Il a lui-même, de ses propres deniers, financé des armes, des munitions pour permettre à Gyalong de vaincre sa cause et donc de faire exister cette nation vietnamienne pour la première fois. Puisque ce régime était, à cette époque-là, cet État était très divisé entre le Tonkin, la Cochinchine, qui formait le royaume d'Annam.
Et est-ce que le roi, le souverain, lui en tient...
Ils étaient très amis. Et il y a eu une tombe avec... il y a eu un discours auquel assistait donc Gyalong. C'était après, on commençait les persécutions contre les Français, les missionnaires français. Hein, mais,
ainsi que les chrétiens. C'est vrai que... Vous parliez du pape Jean-Paul II et qui avait célébré et rappelé le caractère absolument fondamental des missions.
Et canonisé aussi les Coréens.
Et canonisé les Coréens, les Japonais, enfin tant de missionnaires. Vous citez Redemptoris Missio, l'encyclique de 1991, qui rappelle le caractère absolument nécessaire des instituts missionnaires. J'avais à l'esprit, moi, le pape d'aujourd'hui, Benoît XVI, qui dans sa dernière encyclique Spe Salvi, mentionne l'un des grands témoins de l'espérance pour le XXe siècle, qui est le cardinal François-Xavier Nguyen Van Thuan, qui était cardinal de Saïgon en 1975, quand la ville a été prise par les communistes et qui donc a été un martyr de la foi, qui n'est pas mort en prison, mais qui a payé de ce 13 ans de prison sa fidélité au Christ. Et c'est vrai que c'est intéressant, je pense... pour nous, de nous rappeler que ces missions étrangères ont produit des fruits qui existent aujourd'hui et qu'on peut voir de partout,
tout à fait.
De par le monde.
On s'aperçoit aussi qu'ils reçoivent ici, au Rue du Bac, des jeunes. Il y a une association France-Asie qui est là, bien présente, qui fait de l'ONG. Hein, donc il y a des jeunes qui partent et c'est fort intéressant parce que il y a un échange dans ces missions étrangères, dans cette société.
Est-ce que le clergé asiatique vient aux missions étrangères
oui,
se former?
Oui, bien sûr, ils viennent au moment des célébrations d'inauguration. Certains passent régulièrement, bien sûr. On croise des prêtres, on croit qu'ils rentrent de leur mission, qu'ils passent rue du Bac. Rue du Bac reste une âme, un cœur. C'est toujours cette porte de la France qui est tournée vers l'Asie et aussi cette porte de l'Évangile, le message de l'Évangile et de Dieu qui est porté vers ces régions asiatiques.
Très bien, mais écoutez, c'est passionnant. Je renvoie vraiment nos auditeurs à votre livre. Une question qu'on a évoquée rapidement, donc effectivement, les martyrs, tous ceux qui sont morts, la théologie catholique nous enseigne qu'ils sont au ciel. Certains ont été élevés à la vénération des autels. Il y a certains grands saints. Est-ce que vous avez à l'esprit quelques figures
Le premier, on peut citer le premier qui a été martyrisé en Chine, Dufraisse, Monseigneur Dufraisse. Et ces premiers martyrs sont arrivés rue du Bac, un certain Bory aussi, dont les reliques ont été ramenées rue du Bac. Ces premières reliques sont arrivées. Il était intéressant de voir qu'il y avait une petite chambre qui avait été préparée pour permettre aussi aux missionnaires de se recueillir sur leurs compagnons. De là est venue l'idée de crypte. Si vous allez donc toujours cette rue du Bac à Paris, si vous passez, vous pouvez, en dehors même de l'exposition, descendre dans la crypte. Il y a une chapelle, bien entendu, mais c'est un endroit très fort, plein d'énergie, plein de choses étonnantes. Il se passe beaucoup de choses, une puissance qui est là. Puis il y a la mémoire de ces missionnaires. Et tout à côté, il y a ce petit musée où vous pouvez voir aussi les tortures qu'on a infligées. Bah, c'est effrayant, les tortures.
Oui, vous donnez certains détails qui sont assez terrifiants.
On parle des tortures des communistes chinois. Ils étaient tendres, peut-être encore, à côté de ce qui se passait un petit peu partout, hein, puisque les missionnaires étaient souvent épluchés vivants, avec des tenailles, on décollait carrément des lambeaux de peau et c'était effrayant.
Je ne rentrerai pas dans le détail du raffinement des tortures, mais vous parlez d'une persécution qui est faite, alors je ne sais plus dans quelle région, où le souverain, après avoir fait tuer de la manière la plus cruelle un des missionnaires, fait garder sa tombe pendant 3 jours parce qu'il s'est renseigné et qu'il sait
que
le fondateur de cette religion est ressuscité.
Il pense que le missionnaire va se ressusciter. C'est en Corée, hein. Et il pense que ce missionnaire donc va revenir. Donc il fait garder et c'est atroce parce que les moments décrits à ce moment-là sont horriblement insupportables. Hein. Mais il fallait dans le livre aussi parler de ces martyrs et sans tomber dans l'outrancier et c'était par moments difficile parce que j'ai lu des choses pénibles et dans les lettres des missionnaires il y a des moments passionnants mais aussi des moments de doute, d'incompréhension et aussi d'incertitude parce qu'ils savaient qu'ils allaient mourir et qu'ils allaient mourir de manière atroce. Mais que c'était la foi qui les avait amenés là, donc ils y restaient.
Le résumé essentiel vraiment de leur vie, et c'est vrai que c'est ce qui ressort de votre récit, cette impression de disproportion totale entre les forces en présence, si j'ose dire, c'est-à-dire 2 ou 3 pauvres missionnaires qui n'ont même pas de manteau pour affronter les neiges tibétaines et face à un État qui est souvent hostile et à des persécutions. Et pourtant, le mystère, le miracle, si on peut dire, c'est que les gens se convertissent et ces églises autochtones sont fondées et perdurent.
Moi, je pense là à 2-3 missionnaires que j'ai rencontrés, mais notamment au Père Mousset, qui est le responsable des archives. C'est quelqu'un qui a vécu au Vietnam, qui parle le vietnamien, donc ils parlent tous des langues étrangères, des dialectes souvent, et aussi bien de dire que grâce à Alexandre de Rhodes, la langue vietnamienne a été romanisée par Alexandre de Rhodes. La langue romanisée que les Vietnamiens parlent aujourd'hui, c'est celle du dictionnaire d'Alexandre de Rhodes. Donc des gens comme le Père Mousset, ce sont des passionnés d'Asie, ce sont des passionnés de la vie de là-bas. Et c'est vrai qu'ils ont des mentalités asiatiques en eux. Ils sont plus asiatiques que français. Et ils sont vraiment ailleurs, quoi. C'est un autre monde.
Ils ont véritablement adopté
Tout à fait. Ils vivent comme
la
là-bas.
La culture et l'âme des gens qui sont allés évangéliser, ce qui est une belle preuve du fait que le pape Alexandre VII les envoyait précisément pour dégager un peu l'évangélisation des soucis temporels. Et
ce message d'Alexandre VII, c'est 350 ans après, c'est mission accomplie, c'est évident, quoi. Hein, et même si maintenant il faut repenser, il faut penser à aller vers un autre siècle, les églises d'Asie vont devenir quand même de plus en plus importantes.
Très bien, mais écoutez,
il faut espérer qu'en Chine, par exemple, l'église puisse s'ouvrir, que ce régime communiste cesse les persécutions, et soit tibétains, ouïghours, chrétiens, même les Falun Gong qui sont martyrisés, ça va tomber plus vite qu'on l'imagine.
Mmh. Je renvoie à nos auditeurs également un excellent ouvrage du Père Jean Charbonnier sur l'histoire des chrétiens de Chine, qui est le Père Jean Charbonnier missionnaire aux missions étrangères, sinologue reconnu et qui a écrit une passionnante fresque de ces chrétiens chinois au cours des siècles. Et Gilles Van Grasdorff, un grand merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Je renvoie vraiment nos auditeurs à La belle histoire des missions étrangères, éditée aux éditions Perrin. Et puis on va guetter la sortie de votre livre chez Omnibus.
Ça va s'appeler donc normalement à la découverte de l'Asie avec les missions étrangères. Ce sont que des récits de voyage.
Très bien. Mais j'espère que nous aurons le plaisir de les découvrir ensemble à cette antenne.
Tout
merci beaucoup. Merci. À bientôt.
Au revoir. Merci.